les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Selon la tradition de la Grèce antique, l'ancienne cité de Delphes était le centre du monde et même, selon l'expression consacrée, le nombril du monde. La ville du temple d'Apollon était bénie des dieux, c'est là que l'on venait consulter les oracles de la Pythie. Et pourtant, le site de Delphes a été quasiment effacé de la mémoire humaine pendant plusieurs siècles, entre son abandon au 7e siècle et sa redécouverte au 15e siècle par Cyriaque d'Ancône. À cette époque, le site antique était littéralement recouvert par un village du nom de Castries, ce qui l'a paradoxalement sauvé du pillage en figeant les ruines. Eh bien, c'est ce site de Delphes qui a donné aux archéologues de l'école française d'Athènes peut-être leur chantier de fouilles le plus important. Le site est exploré par les scientifiques français à partir de 1892 et renaît, pour ainsi dire, progressivement. La suite de l'histoire ainsi que son commencement nous sont racontés par le directeur de l'école française d'Athènes, Dominique Mullier, au micro de Colette Fellous. Voici Carnet de ville, Delphes, une émission diffusée pour la première fois en août 2007.
Bonjour à tous. Carnet de ville, Colette Fellous, Delphes. À la réalisation, Vincent Delc. Delphes. C'est le nom même de Delphes qui m'a donné envie de faire le voyage, de prendre la route, de sortir d'Athènes un matin et de rejoindre cette ville mythique dont on a dit qu'elle était le nombril du monde, le lieu de l'oracle, le lieu de la Pythie, de son secret et le lieu d'Apollon, avec les montagnes tout autour. Oui, j'avais entouré en rouge le nom de Delphes dans cette série de villes. Après Delhi, après Calcutta, Kolkata, après Athènes, c'est aujourd'hui Delphes que j'aimerais déplier pour vous en compagnie de Dominique Mullier qui dirige l'école française d'Athènes et qui a bien voulu m'éclairer et m'accompagner vers le sanctuaire. Au 7e siècle, on sait que Delphes a été complètement abandonné et on l'a oublié pendant 8 siècles. En mars 1436, c'est le négociant Cyriaque d'Ancône qui passe par Delphes. Il y reste 6 jours, y copie des inscriptions, y voit le théâtre qui ne sera recouvert que plus tard par des maisons. Il signale le stade, il interprète l'hémicycle des rois d'Argos comme étant le temple d'Apollon, et pour la première fois, la ville renaît à la mémoire des hommes. Mais il faudra plusieurs siècles encore, jusqu'en 1858, pour que le village de Castries, qui était établi pile à l'emplacement du sanctuaire, redevienne Delphes. C'est donc l'histoire de cette ville enfouie et retrouvée que je vous propose de partager. Il faisait très chaud ce jour-là, et dans mon carnet, j'avais même recopié la lettre que Karl Ottfried Müller avait écrite à sa femme le 26 juillet 1840, précisément quelques jours avant sa mort, à la suite d'une insolation sur le terrain, alors qu'il travaillait à la lecture d'inscriptions gravées sur le grand mur polygonal. « Nous avons travaillé avec zèle, écrit-il, pour déchiffrer et copier les inscriptions au nombre de 68, la plupart fort longues, gravées sur le mur tourné vers le sud qui reçoit le soleil toute la journée. » C'était un travail éreintant. Je misais sur ma capacité à supporter la chaleur et j'entrepris de recopier les inscriptions d'une pierre retournée, la tête à l'envers, avec le soleil en pleine figure. Mais je l'ai payé cher. Je ressentis une brûlure dans le crâne, avec des douleurs, de la nervosité, au point que je ne peux plus rien faire à Delphes, car chaque nouvelle tentative réveillait le mal et je ne suis toujours pas débarrassée de cette incessante chaleur. C'est avec vous, Dominique Mullier, que nous allons entrer dans Delphes et passer le temps d'une journée dans cette ville. Là, on a quitté Athènes, on est donc sur la route.
Donc là, on est sur la route, on a fait une bonne centaine de kilomètres par autoroute. Puis après avoir quitté l'autoroute, on a traversé la plaine béotienne. Et maintenant, on arrive avec... À notre vue, la ville de Livadia, et barrant le paysage tout au fond, la montagne du Parnasse, que nous allons contourner, gravir pour arriver progressivement à 1000 mètres d'altitude, jusqu'au petit village d'Arakova. Puis nous redescendrons à ce moment-là sur Delphes, où nous arriverons d'ici une petite demi-heure.
Et donc là, c'est le Parnasse, hein, cette montagne mythique aussi.
Voilà, la montagne du Parnasse, puisque Delphes est accrochée sur les flancs du Parnasse, même solidement ancrée sur les flancs du Parnasse. Et à cette saison-ci, le Parnasse a perdu ses dernières plaques de neige, surtout avec le temps qu'on a connu cette année. Donc on a une montagne qui est un peu dépourvue de végétation dans sa partie supérieure, mais qui barre la totalité du paysage, juste cette plaine béotienne. Ce qui est toujours très intéressant quand on parcourt la plaine de Béotie comme on vient de le faire, ou quand on va emprunter tout à l'heure les contreforts du Parnasse pour monter jusqu'à Arakova, c'est de voir tous ces toponymes, tous ces noms de petites villes qui nous sont parfaitement connus par les textes littéraires, les textes des historiens antiques ou par les inscriptions, et qu'on retrouve dispersés dans le paysage. Alors évidemment, aujourd'hui, ce sont des stations-service, ce sont des exploitations agricoles, des bâtiments industriels, mais tous ces noms nous parlent parce qu'on les a rencontrés dans les textes, parce qu'on les a lus sur des inscriptions.
C'est aussi ça la passion, j'imagine, pour un archéologue, non, de vivre ça.
C'est la passion et quelquefois, dans un premier temps, la grande déception, parce qu'il y a un tel écart entre le monde que l'on s'est créé par les lectures et le monde que l'on rencontre, que le choc est parfois très rude.
La route devient plus sinueuse, hein.
Alors plus sinueuse, plus pentue, et vous voyez, c'est une très belle route en fait, très agréable pour la conduite. Elle est hérissée sur le côté de cyprès et de pins, et en cette saison-ci, vous avez toutes les taches jaunes des genêts, et vous voyez parfois accrochées sur le paysage des petites bergeries. Elles sont construites dans la même pierre que le flanc même de la montagne, elles sont accrochées sur ces flancs de la montagne, elles disparaissent presque, elles se confondent avec elles, et ce sont des très 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 beaux vestiges de ce qu'ont été les bergeries, et elles sont d'ailleurs parfois encore utilisées de nos jours. Alors là, en contrebas, il y a un petit élément du paysage intéressant qui se rattache à la mythologie, puisque c'est là qu'on fixe le carrefour où Œdipe a refusé de laisser passer Laios, son père, où s'en est suivie la dispute qui a abouti au meurtre et à toute l'histoire sinistre de cette famille.
C'était là, sous les genêts.
C'était là, en contrebas.
C'est un arrêt incontournable, Dominique Mullier, devant ce paysage.
Oui, parce que si on rentre progressivement dans le paysage de Delphes, on est à quelques centaines de mètres du village d'Arakova, enfin du village d'Arakova qui est devenu maintenant une grande station de ski. Puis à nos pieds se déroule l'ample vallée du Pleistos, que va dominer Delphes, qu'on ne voit pas encore. À mi-parcours dans le paysage, on voit ce qui a été identifié comme étant la terre sacrée consacrée à Apollon et interdite de culture. Puis, plus loin dans le paysage encore, se dessinent les montagnes de l'Ocride. Et tout à fait sur notre gauche, on distingue également des sommets montagneux. Ce sont les montagnes du Péloponnèse, par-delà le golfe de Corinthe. Donc ici, on est à peu près à 1000 mètres de hauteur. On va traverser, souvent avec difficulté d'ailleurs, le petit village d'Arakova, aux rues très étroites. Puis progressivement, on descendra sur Delphes, qui est situé à peu près à 500 mètres de hauteur. Donc après avoir gravi les contreforts du Parnasse, on va redescendre un peu pour se retrouver à la hauteur du sanctuaire.
Et on ne voit pas la mer donc d'ici.
D'ici la mer, on ne la discerne pas. Il faut avoir contourné la croupe rocheuse, le contrefort rocheux sur lequel est installé le site, pour avoir une vue sur la baie d'Itéa. En quelque sorte, Delphes est très proche de la mer, mais en même temps, Delphes tourne le dos à la mer.
C'est un long chemin pour découvrir ce site.
Le site, en fait, on ne le voit qu'au dernier moment. Ouais. Il se découvre à nos yeux qu'au dernier moment, parce qu'il est pris dans un repli de la montagne.
On a vraiment l'ensemble hein, là, du paysage.
Là, on a contourné le site et on découvre un autre volet du paysage delphique qui est la vue absolument grandiose sur la baie d'Itéa. Donc on voit tout d'abord cette sorte de mer d'oliviers qui est une zone tellement intéressante qu'elle a été protégée et qu'elle est classée désormais, donc cette grande mer d'oliviers de la plaine d'Amphissa. Au bord du golfe de Corinthe, on voit la ville d'Itéa. Puis il y a deux baies qui se succèdent. Tout au fond de la seconde baie, la petite ville de Galaxidi. Et tout au fond du paysage, barrant le paysage, les montagnes que l'on aperçoit sont en réalité situées de l'autre côté du golfe de Corinthe. Oui. Et ce sont les montagnes du Péloponnèse. Mmh. Et derrière nous, si on se retourne, on a un paysage qui apparaît complètement fermé. C'est le paysage qui est dominé par les Phédriades, ce qu'on appelle les Phédriades. C'est deux grandes falaises calcaires qui sont séparées par un ravin au pied duquel se trouve la fontaine Castalli. Donc c'est au pied de ces deux falaises rocheuses qui dominent de 500 mètres le site. C'est au pied de ces deux falaises rocheuses qu'est installé le sanctuaire. Mmh. Et c'est intéressant de voir ici les deux aspects de ce paysage. Un paysage fermé du côté du sanctuaire et au contraire, de l'autre côté, vers le golfe de Corinthe, vers la baie d'Itéa, un paysage complètement ouvert.
Mais Delphes est vraiment caché.
Le site de Delphes est vraiment caché. Il tourne le dos. Il ressemble un petit peu à ces sites que l'on connaît dans d'autres régions du monde grec, des sites refuges, des sites de montagne, où on était à la fois à proximité de la mer et en même temps invisible depuis la mer. Il fallait se protéger aussi des attaques possibles de ce côté-là.
Arrêtons-nous un moment, Dominique Mullier, dans cette maison de fouilles qui est un haut lieu aussi de Delphes, puisque c'est là que se sont fixées les premières fouilles archéologiques. On peut remonter peut-être à l'histoire de cette école française aussi qui a commencé à faire les fouilles de Delphes.
Alors si on remonte à l'histoire de l'école française d'Athènes, il faut remonter, j'allais dire, bien au-delà, puisqu'il faut remonter à 1846. Mais disons que pendant les 20 premières années de son existence, la vocation de l'école n'a pas été archéologique, tout simplement parce que la discipline archéologique en tant que telle n'existait pas. Le vrai tournant archéologique pour l'école, ce sont les années 70, c'est le début des grands chantiers, à Olympie par exemple, à Mycène. Pour ce qui concerne Delphes même, les négociations pour l'octroi d'une concession ont commencé en 1882. Elles ont duré 10 ans. Alors nous avons eu la chance, quand ces fouilles ont commencé, de pouvoir utiliser de façon assez extensive la photographie, qui fixe en particulier la situation du village même de Castries qui était implanté sur le sanctuaire avant que ne démarrent ces grandes opérations. Et sur la photographie que vous avez ici, vous voyez implanté strictement,
voilà, c'est là le village.
Voilà, implanté strictement sur le sanctuaire, le village de Castries, qui est un village d'ailleurs, on le voit à partir d'autres photographies, qui est un village très pauvre.
Mais on savait que Delphes était là, mais il y a eu un tremblement de terre.
Alors,
aussi.
Ce qui est fascinant dans l'histoire de Delphes quand même, c'est que nous voilà sur un site qui a été pendant des siècles considéré comme le centre du monde. Et puis, il a connu, comme tous les sites grecs, une phase chrétienne. Et Delphes est détruit au début du 7e siècle, 610-620 à peu près, par des raids de Slaves comme beaucoup de cités grecques. Et à partir de cette date, jusqu'au 15e siècle, c'est le trou noir, le trou le plus complet. On n'a plus aucune attestation de Delphes, on ne sait pas ce que devient Delphes. On a bien quelques vestiges, mais très très maigres, à partir desquels on ne peut rien reconstruire. Et Delphes, donc, ce centre du monde, ce lieu de la puissance oraculaire, disparaît de la mémoire des hommes. Alors, ce qui va permettre...
Donc, le nom a complètement disparu aussi.
Le nom a disparu de la mémoire des hommes. Il n'a pas disparu des lettrés, oui, en particulier. Et ce qui va... On date très précisément cette sorte de renaissance de la Delphes antique de mars 1436, quand Cyriaque d'Ancône vient à Delphes, repère quelques vestiges, les le peu de vestiges qui étaient alors visibles, en particulier les hémicycles, par exemple, ou le théâtre, qui est encore visible à ce moment-là, il copie quelques inscriptions et l'identification du site de Delphes alors est acquise. Le mouvement, pour autant, n'est pas lancé de manière définitive, puisqu'il faudra attendre près d'un siècle et demi pour que d'autres voyageurs reviennent à Delphes. Et c'est la grande série de ce qu'on appelle les voyageurs, et on peut dire que cette tradition des voyageurs érudits va durer jusqu'au XIXe siècle. Et vont succéder aux voyageurs les savants. Et on va entrer à ce moment-là dans la période, la grande période de l'exploitation scientifique du site. Donc c'est fascinant, une fois encore, de voir ce qui était le centre du monde et sorti à un moment de la mémoire des hommes. Quand on retrouve Delphes donc en 1436 avec Cyriaque d'Ancône, c'est un village extrêmement misérable. Et il y a une constante dans les récits des voyageurs, c'est le hiatus, l'abîme, il faudrait même dire, qui existe entre ce que l'on connaît par les textes littéraires de Delphes et la situation de ce village extrêmement misérable qui masque les vestiges, évidemment, qui en partie est construit grâce à ces vestiges, mais qui les masque complètement et qui est vraiment un village très, 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 très misérable. En même temps, il faut bien dire une chose, c'est que l'installation de ce village, très exactement sur le sanctuaire, a été la chance de Delphes. Pourquoi ? Parce que, archéologiquement, le sanctuaire a été scellé. C'est le seul site pour lequel aucun vestige, aucune offrande, aucune sculpture, aucune inscription, à une exception près, ne soit conservée hors de Delphes. La présence du village a bloqué une situation et a empêché le pillage, en fait, de ce qui subsistait du sanctuaire. Et donc, 1892, au mois d'octobre 1892, commence l'expropriation. Ça ne s'est pas fait tout seul, il a fallu la présence de la force armée quand même, à deux reprises. Et on a commencé donc à démonter ce village et à évacuer les déblais, récupérant au passage évidemment les vestiges architecturaux, les vestiges inscrits, les fragments de sculptures qui importaient. Et ensuite, on a eu la possibilité évidemment de fouiller sous ce village, puisqu'il y avait quand même eu une accumulation de terre qui s'était produite au cours des siècles.
C'est donc ici, Dominique Mullier, que commence le sanctuaire, que se situe. Alors,
très précisément, ici, on se trouve dans un endroit qu'on appelle très improprement l'Agora romaine. Oui. C'est une sorte de gigantesque antichambre ou un gigantesque hall précédant l'une des entrées principales du sanctuaire. D'accord. Il faut imaginer une cour entourée de colonnes sur ses trois côtés qui donne accès au sanctuaire proprement dit. On est juste avant le sanctuaire.
Ce que le rideau n'est pas encore levé.
Voilà, que nous progressions, que nous franchissions avec beaucoup de respect l'enceinte du sanctuaire, parce qu'on va basculer d'un espace profane à un espace sacré. Et puis peut-être qu'une fois qu'on aura franchi ce mur, on pourra s'arrêter quelques instants pour faire référence à un de nos sûrs appuis dans la recherche sur le sanctuaire, c'est-à-dire Pausanias.
Ah oui. On peut se mettre sur cette pierre, Dominique Mullier, et essayer peut-être de raconter l'histoire de Delphes, son importance, sa situation géographique, et la raconter pierre à pierre, on pourrait dire, plutôt que pas à pas.
Oui, alors commençons éventuellement par la situation géographique. Ce que l'on dit, ce que l'on lit, c'est que Delphes est un carrefour. Un carrefour des voies de circulation est-ouest, c'est facile à comprendre, c'est le golfe de Corinthe, une voie navigable, et également point d'aboutissement d'un axe de circulation nord-sud. Alors ça, c'est ce que l'on dit, c'est ce qu'on lit, sauf que dans le détail, les choses ne sont pas aussi simples que cela, parce que Delphes, bien entendu, comme on le voit en entrant dans le village, est pas loin de la mer, domine le golfe de Corinthe, n'empêche que Delphes, en même temps, tourne le dos à la mer presque délibérément. D'autre part, Delphes est une voie d'aboutissement de la circulation nord-sud, oui, à la condition quand même de repasser par la plaine d'Amphissa principalement et ensuite de refranchir tout le chemin qui mène jusqu'au sanctuaire. Et puis il y a un autre point sur lequel il faut insister, c'est la situation même de Delphes. J'allais dire, on passe presque de la géographie à la topographie. On s'émerveille à juste titre sur la situation du site, dans un paysage qui est quand même, on peut le dire en toute modestie, un des plus beaux qui soit au monde, avec cette ouverture sur le golfe d'Itéa, ce prolongement sur la vallée du Pleistos. Oui, sauf qu'il fallait vraiment, passez-moi l'expression, être tordu pour venir installer un sanctuaire dans un lieu comme celui-ci. Pourquoi ? D'abord parce qu'on le voit, nous sommes situés sur l'angle sud-est du sanctuaire. Le sanctuaire nous domine, et nous domine véritablement parce qu'on est sur un terrain qui a 35% de pente. Donc on imagine un sanctuaire de dimension modeste finalement. Oui. C'est un trapèze de 200 mètres de longueur sur 100 mètres de petit côté, avec une pente de 35%, donc la nécessité de construire par un système de terrasses. Et vous verrez, en franchissant le sanctuaire, vous verrez que très souvent, les monuments appuyés sur la partie nord, sur la partie fondée sur les rochers naturels, et demeurait bien en place, assez solidement assise ou installée. La partie sud, au contraire, généralement, bâtie sur des remblais et des terrasses artificielles, elle a beaucoup plus souffert. Donc ça, c'est une des premières difficultés du choix du lieu. La deuxième difficulté, ce sont ces phédriades qui nous dominent. C'est très impressionnant, cette masse des phédriades qui nous dominent de leurs 500 mètres.
Comme des remparts
comme
énormes.
Une sorte de remparts naturels. Ce sont de vrais remparts naturels, mais qui en même temps qu'ils protègent et en même temps qu'ils défendent, sont source de difficultés, puisque de ces remparts naturels se décrochent de temps en temps des rochers qui provoquent des accidents. Ensuite, la situation même des lieux aboutit à des poussées de terre absolument colossales. Et puis, ajoutons pour terminer que nous sommes dans une zone de forte sismicité, que les tremblements de terre sont relativement fréquents. Donc tout cela fait que cumuler... C'est vraiment pas le meilleur lieu qu'il fallait choisir pour installer un sanctuaire. Alors après, il y a la dimension, j'allais dire, mythologique des lieux. Et de même que Delphes, d'une certaine manière, est un carrefour géographique, Delphes est aussi, d'une certaine manière, un carrefour mythologique. Et ça commence par l'installation même d'Apollon. Et là, c'est l'hymne delphique à Apollon, l'hymne homérique à Apollon, pardon, qui nous renseigne. On raconte que Apollon donc est né à Délos et puis à un moment a cherché un lieu où établir son temple. Et il a parcouru le monde grec sans trouver le lieu où installer son temple jusqu'à ce qu'il arrive à Delphes. Et c'est le lieu qu'il choisit. Mais à ce moment-là, le lieu est déjà occupé par la divinité Ga, protégée par le serpent Python. Et l'on sait que la prise de possession du sanctuaire par Apollon commence par un meurtre. Apollon tue de ses flèches le serpent Python et prend possession du sanctuaire. Moyennant quoi, puisqu'il a fait couler le sang, il est frappé d'impureté, donc il doit quitter Delphes pour aller se purifier avant de pouvoir reprendre définitivement possession de son sanctuaire. Et cela va avoir des répercussions sur l'occupation du sanctuaire, puisque vous savez que dans l'année, le sanctuaire d'Apollon est en réalité partagé, les mois d'hiver à Dionysos, et les autres mois à Apollon. Ça correspond à ce battement, à ce départ d'Apollon pour la purification. Le deuxième mythe que l'on rencontre, c'est celui qui fait de Delphes le centre du monde. Alors, on connaît l'histoire. Zeus lâche des deux extrémités de la Terre deux aigles volant à même distance, la Terre étant représentée à l'époque comme un disque plat. Ces deux aigles volant à même vitesse se rencontrent au-dessus de Delphes. Il est donc prouvé géométriquement que Delphes est bien le centre du monde. Et puis le troisième mythe, c'est le mythe qui fonde le système oraculaire, c'est celui du berger Corétas, qui menait paître ses chèvres, censément à l'emplacement actuel du temple, et l'une de ses chèvres, se penchant par-dessus une crevasse de la terre, bondissait. Et c'est comme cela que l'on découvre le souffle, ce qu'on appelle le pneuma, le souffle qui allait donner l'inspiration à la pitié ultérieurement. Alors il faut bien voir que ces trois mythes, celui qui fonde la prise de possession du sanctuaire par Apollon, celui qui définit Delphes comme centre du monde et celui qui explique l'installation du sanctuaire, ne sont pas des mythes en connexion, ce sont des mythes qui se juxtaposent et qui rendent compte de situations. En réalité, ces mythes, évidemment, sont des écritures postérieures C'est une autre forme d'écrire l'histoire et c'est une façon, après coup, de rendre compte et de justifier d'une situation. Pourquoi est-ce que Delphes est considéré comme le centre du monde? C'est parce qu'il y a l'histoire des aigles de Zeus. Pourquoi est-ce que c'est Apollon? Parce que il nomme Érique à Apollon. Pourquoi le sanctuaire et le système oraculaire recourent au mythe de Corétas? Donc ce sont des réécritures de l'histoire pour rendre compte d'une situation sur laquelle on n'avait pas d'autres informations.
C'est-à-dire que le mythe est un livre d'histoire, en fait.
C'est un livre d'histoire, mais une
fixe
histoire largement...
L'histoire.
Alors, il fixe, il essaye de rendre compte, par d'autres moyens, de ce qui existe.
Oui.
C'est comme ça qu'on a beaucoup, dans la mythologie, on a beaucoup de récits qu'on appelle récits étiologiques, c'est-à-dire des récits qui s'efforcent d'établir la cause des choses. Pourquoi est-ce que dans un sacrifice, on partage l'animal de telle et telle manière? Eh bien, il y a un mythe qui est là pour expliquer cette situation, mais qui l'explique évidemment a posteriori.
Donc c'est le lieu de la pitié, c'est où?
Alors le lieu où exercer la pitié, c'est le temple. La pitié est exercée dans le temple même, et c'est cette pitié qui attirait énormément de pèlerins ici, à partir de l'époque archaïque principalement, qui a attiré énormément de pèlerins. Et je dois dire que d'une certaine manière, cette pitié a continué à exercer sa fascination jusqu'au XIXe siècle finissant, puisque quand on a commencé les fouilles, qu'est-ce que l'on cherchait principalement, il faut bien le dire, c'est tout ce qui avait trait à la pitié. Parce que, pensait-on, on allait enfin comprendre la façon dont fonctionnait la pitié, la façon dont était organisé le temple autour de la pitié. On avait quelques renseignements, soit par une iconographie un petit peu maigre, soit par des textes littéraires. On voulait confronter ça à la réalité archéologique et on était persuadés qu'en fouillant le temple, eh bien, on allait trouver l'explication. Alors, Théophile Homol, lui, a demandé à ce qu'on étende la fouille à l'ensemble du sanctuaire, et bien lui en a pris, parce que du point de vue du programme initial, à savoir la pitié, le système oraculaire, l'histoire de la fouille de Delphes a été l'histoire d'une grande déception, parce qu'on n'a rien trouvé. On n'a strictement rien trouvé, mais le reste a largement compensé cette déception.
Mais c'est peut-être le secret aussi de ne rien trouver.
Ah, c'est ce qu'on continue à dire, la pitié, la dernière pitié est partie en emportant son secret à jamais, et puis voilà quoi.
On va se promener dans les entre
les
pierres.
On va se promener, pierres, on va suivre on un va peu Pausanias. Se...
Voilà. Vous voulez, oui. Quel itinéraire alors?
Alors on va suivre.
Pour suivre Pausanias.
On a franchi la porte du sanctuaire, qui est la porte principale du sanctuaire, qui n'est pas la porte unique, mais la porte principale du sanctuaire, et donc on a basculé dans le sacré d'une certaine manière. Un sanctuaire, il faut savoir, ça porte un nom très particulier en Grèce, ça s'appelle un téménos. Alors, téménos vient du verbe temno, couper, découper. Un sanctuaire, c'est un espace qui est découpé, effectivement, et qui est propriété du Dieu. Et tout ce qui va se trouver à l'intérieur de cet espace est consacré au Dieu. Ce sont des offrandes qui lui appartiennent en propre, et l'on verra peut-être ici ou là en chemin ce que l'on faisait de ces offrandes quand elles subissaient les dommages du temps. Donc tout ce qui est à l'intérieur appartient au Dieu, lui appartient en propre. Et pour le parcours que nous allons suivre, nous avons la chance d'avoir un guide. Nous avons la chance d'avoir un guide dans la personne de Pausanias, ce qu'on appelle un périégète, un voyageur, on va dire le prototype des grands voyageurs, qui nous a laissé en 10 livres une description de la Grèce, et une bonne partie du livre 10 est consacrée à la description de Delphes. Pausanias arrive par le sanctuaire d'Athéna, en contrebas, qu'il décrit en laissant quelques apories au passage, et il arrive ici, et si vous voulez, on peut prendre le début de son texte, parce que on se retrouve exactement dans le...
Sur la même pierre,
presque. Sur la même pierre, au même endroit. Alors il commence, là, à peu près où nous sommes, la ville de Delphes offre de toutes parts un site escarpé, et de même que la ville, l'enceinte sacrée d'Apollon. Cette enceinte est vaste et domine l'agglomération, des ouvertures y ont été pratiquées à intervalles rapprochés. Et il poursuit, parmi les offrandes, je mentionnerai celles qui me paraîtront vraiment dignes d'intérêt. Et un peu plus loin, après avoir dit ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, il dit, en entrant dans le téménos, dans le sanctuaire, on trouve un taureau de bronze, œuvre de Déopropos d'Égine et offrande des corps syriens. Et nous avons, nous, devant nos yeux, la base sur laquelle se trouvait ce taureau de corps syrien. Donc on a une description du sanctuaire par Pausanias. Alors je ne vais pas lire toute la description des corps syriens. Il raconte pourquoi les corps syriens ont offert un taureau. Et puis il dit ensuite... Ensuite se voit, offrande des tégéades sur le butin pris aux Lacédémoniens, un Apollon, une Niké et les héros indigènes Callisto, Arcas, les enfants d'Arcos, Elatos, Azan, Triphilos, la mère de celui-ci n'était pas Erato, mais Laodami, etc., etc. Si vous allez sur la pierre qui est actuellement là sous nos yeux, la pierre des tégéades, vous relirez exactement les noms qu'a donné Pausanias. Et il dit, les auteurs de ces statues sont Pausanias d'Apollonie, et si vous allez là, vous lirez la signature de Pausanias d'Apollonie. Donc voilà, on se dit, on a un guide. Et ça a été la tentation, à dire vrai, de nos aïeux, de nos prédécesseurs archéologues, que de se dire, on va fouiller Pausanias à la main. Et là, ça pose une difficulté méthodologique, quand même. Pourquoi ? Parce que la fouille, d'abord, met au jour des monuments et juxtapose des monuments ou des vestiges archéologiques qui n'ont pas nécessairement coexisté dans l'Antiquité. Et Pausanias, quant à lui, Pausanias, quand il visite le sanctuaire, eh bien, il fait des choix. Il fait des choix qui correspondent...
Donc en quelle année à peu près ?
Nous sommes au deuxième siècle, au deuxième siècle de notre ère. Pausanias fait des choix, et ces choix vers quoi se portent-ils ? On dit parfois qu'il a un goût d'antiquaire, il se porte vers l'ancien. Donc il opère déjà... quelques choix. Donc, on l'a dit, il ne voit pas tout, et il ne décrit pas tout non plus. Alors, on va suivre Pausanias, mais très prudemment.
D'accord. C'est vraiment un livre en plein air. Hein. Mathilde travaille donc sur.
Et donc,
avec
Mathilde, dans le cadre de l'étude...
La brosse, le miroir...
Voilà, l'eau, la brosse, le miroir... L'épigraphie appelle des éléments et des outils extrêmement simples, un miroir, une brosse. Ah. Et puis, on peut aussi utiliser deux autres techniques qui sont l'estampage, c'est-à-dire que l'on fait une empreinte de l'inscription sur un papier spécial, et le charbonnage. Alors, le charbonnage, c'est une technique qu'on emploie quand l'inscription est particulièrement difficile à lire. Il s'agit de mouiller la pierre, de frotter dessus un charbon de bois tendre, et on lit beaucoup mieux l'inscription qui est un peu abîmée par cette technique. Mais oui, ce sont des techniques rudimentaires. Alors après, évidemment, on peut recourir à des techniques plus sophistiquées, surtout maintenant que l'ordinateur, par des prises de vue spéciales, par des traitements photographiques des inscriptions qui permettent d'améliorer leur lisibilité et donc d'améliorer leur lecture au total.
Mathilde est en train d'expliquer aux passants, à un passant curieux...
Voilà. Ce que comprend le décret honorifique et les différents privilèges qui sont accordés à ce personnage.
Vous voulez nous le lire aussi, Mathilde ?
Alors, c'est Delphoi et Docane. Les Delphiens ont accordé. Ensuite, il y a le nom du bénéficiaire du décret. Ergo, la suite est difficile à lire. Et ensuite, la liste des privilèges qui lui sont accordés. Proxénian, la proxénie. Promanteian, la promancie, le droit de consulter l'oracle en priorité. Proédrian, un siège privilégié au théâtre. Prodikian, le droit de consulter la justice en priorité. Asulian, la sécurité pour lui et pour ses biens. Ateleian, la dispense de taxes. Ateleian Panton, dispense de toutes les taxes. Kai Taala, Osakai, Tois Alois, Proxenois. Et tous les autres privilèges qui sont accordés aux autres proxènes. Voilà.
Bon travail alors, Mathilde. Merci beaucoup. On va continuer notre chemin.
Alors, dans cette première partie de la voie sacrée, il y a un phénomène qu'on peut analyser assez facilement, malgré l'état de destruction très poussé de la partie sud de la voie sacrée. C'est le choix de la topographie des offrandes qui ne peut pas avoir été toujours innocent. Alors, justement, dans cette partie-ci de la voie sacrée, quand on monte la voie sacrée, on a à droite, nous l'avons vu, le taureau de Corcyre, la base des Arcadiens. À gauche, dans l'ordre, le monument de Lysandre et un monument athénien célébrant la victoire de Marathon. L'ordre chronologique des monuments, c'est Marathon, à côté Lysandre, en face les Arcadiens. Marathon, 13 statues, célébrant la victoire athénienne de la bataille de Marathon. Que se passe-t-il à la fin du 5e siècle ? Les Spartiates remportent la victoire sur les Athéniens. Comme par hasard, ils viennent installer leur offrande célébrant leur victoire juste à côté de la victoire de l'offrande célébrant la victoire des Athéniens et avec une surenchère. Là où il y a 13 statues pour les Athéniens, on en met 38. Là où on est sur un rang pour les Athéniens, on se met sur 3 rangs de profondeur. Là où les Athéniens célèbrent Miltiade, un mort, le monument de Lysandre célèbre la victoire d'un vivant Lysandre. Mais que se passe-t-il 25-30 ans plus tard? Les Arcadiens remportent une victoire sur les Spartiates. Où installent-ils leur base? Comme par hasard, juste en face de la base spartiate. Ah, oui. Donc tout se passe comme si...
On voit l'organisation, en fait, dans ce
petit espace qui fait quelques dizaines de mètres de côté. Eh bien, on a trois cités qui se sont opposées, qui se sont affrontées, qui ont remporté des victoires les unes sur les autres. Et le sentiment qui se dégage, c'est que dans ce petit espace, eh bien, on a poursuivi comme cela les querelles intestines entre les cités et que le sanctuaire devient le champ clos des rivalités entre les cités.
Alors là, c'est en... On peut faire aussi une petite pause ici, au milieu du sanctuaire.
Alors oui, on a continué notre chemin, donc on a laissé l'hémicycle des rois d'Argos, l'hémicycle des Épigones, plusieurs niches qui étaient là et qui étaient elles-mêmes emplies d'offrandes, de statues, de trépieds. Et on arrive dans un endroit que l'on appelle, de façon un peu irrévérencieuse, mais peu importe, qu'on appelle le carrefour des trésors. Et on commence à rencontrer ici ces nombreux petits édicules que l'on avait offerts à la divinité, dont le meilleur exemple, évidemment, est le trésor des Athéniens, qu'on ira voir par sa façade. Mais dans ce petit espace, on peut citer le trésor des Athéniens, le trésor des Mégariens, le trésor de Sicyon, de Sifnos, de Béotien, de Potidée, de Thèbes, bref, autant d'offrandes qui ont été faites à des occasions très spécifiques. Et puis ce carrefour des trésors est comme marqué symboliquement par cette pierre qui est devant nous et qui est ce qu'on appelle un omphalos. L'omphalos désignant le nombril. En effet, pour marquer que Delphes est le centre du monde, on dit aussi que Delphes est le nombril du monde. Et la façon de symboliser ce titre, ce rôle, eh bien, c'est cette pierre de forme ogivale dont nous avons retrouvé deux exemplaires à Delphes. Cet exemplaire situé au sud du trésor des Athéniens, qui est en calcaire, qui est peut-être, mais on n'est pas obligé de le croire, l'omphalos qui était placé dans le temple auprès de la Pythie. Et puis nous avons retrouvé un deuxième omphalos en marbre, recouvert d'un filet, d'un agrénon, qui lui venait couronner, et nous le verrons au musée, la colonne des danseuses, qui constitue une des pièces et un des monuments les plus remarquables de Delphes. Deux omphaloïs, donc en tout, il devait y en avoir d'autres, probablement, mais nous n'avons retrouvé que ces deux exemples.
Voilà la façade principale du trésor.
Voilà, la façade du trésor, alors on voit bien la façon dont se présente un trésor. On voit bien aussi ce que pouvait donner cet ensemble avec une trentaine de trésors de la sorte construits, avec des styles différents, mais avec un volume à peu près équivalent. Alors on voit bien aussi ce qu'est un trésor depuis ici. C'est un petit monument, un petit édifice, qui emprunte ses règles à l'architecture religieuse. De l'extérieur, on dit, bon, c'est un petit temple, mais en réalité, le trésor n'a aucune fonction cultuelle, aucune fonction religieuse. C'est tout simplement une chambre forte. C'est d'abord une offrande, qu'une cité fait, en l'occurrence Athènes, pour commémorer une victoire, ou bien le Sifnos pour célébrer les produits absolument extraordinaires qu'ils ont retirés de l'exploitation de mines. Il y a toujours une occasion pour faire une offrande aux dieux. Donc c'est d'abord une offrande qui prend une forme architecturale.
Ah oui.
Cette offrande va ensuite servir à abriter d'autres offrandes qui sont fragiles, qui sont précieuses. Donc On a un coffre-fort, on enferme ses pièces, on enferme ses offrandes dans une chambre forte. Tout cela était très protégé en réalité, très protégé. On va continuer notre promenade ensuite en essayant de se déprendre, autant que c'est possible, de l'image que nous offre la présentation du site actuellement. Au sortir du trésor des Athéniens, on emprunte une voie d'allée.
Bien.
En fait, cette voie d'allée, c'est une des rues de la ville chrétienne. Elle n'existait pas dans l'Antiquité. Ce qui existait, quand on quittait le trésor des Athéniens, c'est une grande esplanade, avec des monuments tout autour où on pouvait prendre place. C'est ici, on le sait par les inscriptions, que se formaient les processions avant de monter jusqu'à l'autel. C'est ici aussi qu'avait lieu tous les 7 ans la représentation d'un drame, un drame symbolique, par lequel on reproduisait la prise de possession du sanctuaire par Apollon. Cette voie a pourtant eu un intérêt, parce que là exactement où nous nous sommes arrêtés, on a dépavé cette voie. Parce que cette voie avait été faite avec des blocs empruntés au monument, voire avec des inscriptions. Donc. Et en soulevant les pavés, les dalles qui sont ici, eh bien, on a trouvé 2 fosses qui étaient emplies d'une terre noirâtre, résidu de combustion. Et en réalité, ces fosses contenaient les vestiges d'offrandes qui sont actuellement exposées au musée, un taureau d'argent, des statues chryséléphantines, des plaquettes d'ivoire. Que s'est-il passé? Il s'est passé un phénomène très simple. Je vous disais que tout ce qui était dans le sanctuaire était propriété du dieu, que toute offrande est et reste propriété du dieu. Seulement, il arrive des moments où eh bien, les étagères du dieu sont pleines, ou il arrive des moments où des objets s'abîment, se détruisent avec le temps. Que fait-on dans ce cas-là? 2 solutions. Si on a des offrandes en métal, on peut proposer, mais ça fait l'objet d'une décision, on peut proposer de fondre le métal pour fabriquer de nouvelles offrandes qui remplaceront les offrandes endommagées. Dans le cas contraire, on n'a qu'une solution, on ouvre un trou dans le sol du sanctuaire et on enterre les offrandes. C'est comme ça qu'on retrouve quelquefois des milliers de statuettes ou des dizaines et des dizaines d'offrandes. Alors ici, que s'est-il passé? Visiblement, les offrandes qui ont été enterrées ici ont été détruites, à un moment de l'histoire du sanctuaire, ont été détruites par un incendie. Elles sont restées propriété du dieu. On a tout replié, les plaques d'argent, on a tout rassemblé, on a tout réuni. On a ouvert 2 trous au milieu de la place, de ce qui à l'époque était une place, et on a tout enterré. Et alors de ce même point de vue, à peu près, on a une vue sur ce qui est la pièce architecturale de choix du sanctuaire d'Apollon, c'est le mur polygonal. Alors, disons que ce mur polygonal nous apparaît comme quelque chose d'imposant, ce qu'il est, il se développe sur 84 mètres de long, qui s'impose à nous et à la vue. N'oublions pas cependant que, premièrement, ce mur polygonal n'est qu'un outil architectural. C'est un mur de terrasse destiné à retenir la terrasse sur laquelle on va construire le temple. Deuxièmement, ce mur polygonal, simple outil architectural, n'était quasiment pas visible. On voit bien sur la partie occidentale du mur que par-dessus venaient des assises régulières, quelques-unes sont conservées là-bas. On voit bien qu'ici, par devant le mur polygonal, était construit ce qu'on appelle le portique des Athéniens, qui le masquait donc en partie à la vue, et quand tout cela était peuplé d'offrandes, quand tout cela était orné de statues, quand tout cela était recouvert et rehaussé par des assises isodomes, le mur polygonal devait disparaître quasiment en regard. Encore une fois, c'est un mur de terrasse. Néanmoins, il demeure le plus beau mur antique qui nous soit conservé, et ensuite, à partir de la fin du IIIe siècle, ce mur polygonal a servi de support à des inscriptions. On a commencé par y graver quelques inscriptions agonistiques, des catalogues de participants à des concours. Et puis surtout, à partir de 200, on a commencé à y graver des actes d'affranchissement d'esclaves. Et on a à peu près 600 à 700 actes d'affranchissement d'esclaves, soit à peu près la moitié du corpus, qui ont été gravés sur le mur polygonal. Donc on a ici une copie des archives des affranchissements.
Ah oui, alors là, sur la pierre, c'est tout un livre sur lequel vous vous êtes penché. C'est votre spécialité, un peu, alors, Dominique Méliès.
Alors, les affranchissements, à Delphes, on en voit un ici qui est très bien éclairé, qui nous permet donc de voir un peu comment fonctionne ce type de texte. Les affranchissements sont gravés très précisément à partir de 200, avant notre ère. Pourquoi? On n'en sait rien. Jusqu'alors, les affranchissements existaient, mais on en transcrivait copies sur des matériaux périssables. Alors, comment se présentent ces textes? Un affranchissement à Delphes obéit à un formulaire et prend la forme d'un contrat de vente. L'esclave, juridiquement, n'a pas de capacité juridique. L'esclave est une non-personne, donc il ne peut pas passer contrat. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'esclave, comme le dit le texte, confie au dieu Apollon le soin de l'acheter. Et le contrat de vente qui va aboutir à l'affranchissement, c'est un contrat de vente qui est conclu entre le propriétaire de l'esclave, d'une part, et le dieu Apollon, d'autre part. Le dieu, au terme de ce contrat, devient juridiquement propriétaire de l'esclave, mais il est bien entendu que l'esclave bénéficie de sa liberté. On a affaire à un contrat de vente identique à ce qu'on trouverait s'il s'agissait de vendre une maison, un terrain ou des effets. La seule différence, c'est qu'on vend un individu. Donc, le texte commence par la datation, le nom de l'archonte. Alors, il n'existe pas, on ne compte pas les années en Grèce, on donne le nom d'un magistrat, qu'on appelle pour cette raison magistrat éponyme. Donc on donne le nom de l'archonte, le nom du mois, le nom des boulottes, et puis là, on a une formule qui dit « un tel a vendu », et on voit « soma ».
Et son nom ?
Le nom du propriétaire, et le nom du propriétaire existe, le nom du propriétaire. Si l'esclave va apparaître, a vendu « soma gunai keion », un individu de sexe féminin, dont on donne le nom, et dont on va même dire que l'on vend, outre l'individu, ses effets, taïn du mata, et ses bijoux. À partir de ce formulaire de base, on a affaire à un formulaire juridique, on va pouvoir trouver toute une série de compléments qui vont porter sur les obligations que l'esclave doit à la sépulture de son maître quand celui-ci mourra, qui vont porter sur les soins dont il faudra entourer telle ou telle personne. Bref, toute une série de clauses complémentaires au contrat de base qui vont préciser certains dispositifs. Va avec le temps apparaître aussi de plus en plus souvent une clause qu'on appelle une clause de paramona à Delphes, de paramoné dans le reste du monde grec, qui est une clause au terme de laquelle on dit à l'esclave, d'accord, tu es libre, tu as payé, pas de problème, mais tu restes au service de ton maître jusqu'à ce que celui-ci décède. Ça, c'est une première restriction. Et puis, le temps se déroule encore, puisqu'on a cette procédure que l'on suit sur 3 siècles, la situation de l'affranchi va encore s'aggraver, puisque non seulement on va lui dire « tu restes au service de ton maître, tu restes auprès de ton maître, et tu vas fournir à sa mort, à ses ayants droit, un enfant ou 2 enfants, qui aura au moins 1 an ou 2 ans, c'est-à-dire qui aura passé le cap de la mortalité infantile. » Alors, pourquoi? C'est tout simplement qu'on se trouve à partir du second siècle et surtout du premier siècle dans une situation où les échanges économiques sont gravement modifiés par l'intervention romaine. Les marchés aux esclaves sont de moins en moins dirigés vers la Grèce, de plus en plus vers l'Italie. On a de plus en plus de difficultés à se fournir des esclaves à l'extérieur. Donc on va favoriser ce que l'on appelle le croît intérieur. On va favoriser les unions entre esclaves. Au besoin, d'ailleurs, le maître paiera de sa personne pour avoir une sorte d'auto-alimentation de la force productive. Et on voit bien, de la sorte, avec cette aggravation, on voit bien à quoi sert un affranchissement. L'affranchissement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas du tout une mesure philanthropique. L'affranchissement est un dispositif réglementaire qui permet au maître de renouveler sa force productive et, dans les derniers temps, avec cette obligation de fournir un enfant, de la perpétuer. Oui. Et dans ce cas-là, l'affranchissement, loin d'être une mesure philanthropique vis-à-vis de l'esclave, est le meilleur moteur du système esclavagiste. Oui. C'est terrible comme situation.
C'est terrible.
Ce qui n'exclut pas, parce que dans un ensemble de 1350 textes comme ça, évidemment, on a beaucoup de variantes. Ouais. Ce qui n'exclut pas que quelquefois, il y a eu de vraies mesures philanthropiques, quand ouais. même. Quand on voit qu'un maître quasiment vit avec son esclave, qu'il lui fait des enfants, voire on a un cas exceptionnel où il adopte l'enfant né de son esclave, on se dit que quelquefois, il y a eu effectivement des règles privilégiées. Et alors, effectivement, vous dites, on les fixe, et il y a une chose qui me paraît toujours très importante à signaler quand on parle de ces textes. Vous voyez, ce texte, en fait, concerne une esclave. L'esclave décédé, ce texte n'a plus de signification en tant que tel. L'esclave n'a pas besoin d'attester ça, c'est une copie de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on grave le texte ? Parce que pour que la vente soit réputée parfaite, il faut la rendre publique et opposable au tiers. C'est pour ça qu'on affiche. Il y a quand même quelque chose, de, même si c'est un peu ridicule de le dire comme ça, de fondamentalement émouvant, parce qu'on se dit que c'est un destin là, qui bascule à travers ce contrat. Mais ce qui fait surtout l'intérêt après...
On voit ses biens, ses bijoux, on voit tout. Bon.
Ce qui fait l'intérêt après, c'est la mise en série de ces textes. Ouais. Parce que toute la chronologie delphique, ou quasiment toute la chronologie delphique, du 2e siècle avant au 1er siècle après, est construite sur les affranchissements. Ouais. Parce qu'on les met en série, et la mise en série permet de bâtir une chronologie. Les affranchissements nous font connaître plus de 5000 personnes delphiennes, plus de 1600 esclaves. Donc, pour écrire l'histoire économique, sociale, politique et institutionnelle, parce qu'on mesure les évolutions institutionnelles de la cité de Delphes, la mise en série de ces affranchissements est quelque chose d'extraordinaire.
C'est tout le fonctionnement d'une cité. Qui domine toute la structure, tout le temple d'Apollon qui est extraordinaire, entouré de ces montagnes. Et c'est vraiment
d'ici on a une des plus jolies vues sur le temple lui-même, sur le paysage qui l'environne. Et c'est la meilleure lecture finalement aussi qu'on puisse avoir de la ruine du temple. Le temple qu'on a là sous les yeux, c'est le temple du 4e siècle. Alors, au fond de la cella, après avoir franchi le pronaos, au fond de la cella, en un endroit où les simples particuliers n'ont pas accès, se trouve la Pythie. C'est un peu le point sur lequel on s'était focalisé quand on a voulu commencer les fouilles. Hélas, trois fois hélas pour les fouilleurs, ce que l'on a trouvé, c'est ce que l'on a sous les yeux actuellement. Autant dire rien. Rien du dispositif oraculaire, rien qui permet d'avancer dans la connaissance de ce dispositif oraculaire pour lequel on doit continuer à utiliser les sources écrites. La seule chose que l'on peut dire avec quelques certitudes sur cet espace où fonctionnait la Pythie, c'est que c'était un lieu situé en contrebas par rapport au dallage du temple. Mais après, comment était organisé le trépied de la Pythie, l'omphalos, le laurier, le tombeau de Dionysos, comment tout cela fonctionnait, on n'en sait rien. On peut dire évidemment que la Pythie a gardé une partie de son mystère. On peut, en tant qu'archéologue, trouver ça un peu frustrant, un peu décevant. Mais après tout, est-ce fondamental pour notre compréhension de Delphes ? Peut-être pas, et on peut très bien comprendre Delphes sans savoir exactement comment était agencée cette adytone, cette partie du temple qui n'était pas accessible aux profanes. Parce que, pour le reste, on a quand même un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de la Pythie et du système oraculaire. La purification à Castalie, le sacrifice préliminaire obligatoire, le paiement d'une taxe qu'on appelait le pélanos et pour lequel on a conservé des tarifs spécifiques, et puis plus ou moins les formes de consultation par interrogation, par tirage au sort, etc. Tout cela, on a pu le rétablir.
C'est là le point le plus élevé de ce sanctuaire.
Alors, c'est le point le plus élevé, on va dire, de notre visite. Oui. Pas du sanctuaire, parce qu'on a quitté le sanctuaire en réalité.
Ah oui, d'accord.
Quand on a quitté le théâtre
d'accord.
On a franchi un mur et on a quitté le sanctuaire pour rejoindre le stade. Donc le stade fait partie des équipements nécessaires pour l'organisation des concours pythiques. On a vu le théâtre. Il y a le stade ici, il y avait l'hippodrome en contrebas dans la plaine d'Amphissa, et enfin il y avait le gymnase où les athlètes pouvaient s'entraîner. Alors c'est dans ce stade, quelle qu'en soit la forme, ultime en pierre ou la forme en bois, simple talus comme à Olympique, avaient lieu donc les épreuves gymniques. Et on l'a vu aussi quand on était au théâtre, on pouvait aménager l'extrémité courbe du stade pour le transformer en une sorte de petit auditorium pour y donner les épreuves musicales à une époque où le théâtre lui-même n'existait pas. Alors la mesure est la mesure habituelle, la mesure habituelle d'à peu près 180 mètres, hein, puisque n'oublions pas que le mot stade désigne d'abord une unité de mesure, que ce n'est que par métonymie qu'il a fini par donner son nom à l'espace où avait lieu la course sur cette unité de mesure. Donc course de stade, mais on savait qu'il y avait ici la course simple, la course double, la course de fond, la course en armes, donc toutes les courses traditionnellement représentées dans les grands concours qui étaient organisés en Grèce.
C'était une forme de théâtre, en fait.
Une forme de théâtre, c'était une manifestation d'essence religieuse, tout d'abord. Il ne faut pas l'oublier que les concours sont à l'origine des manifestations religieuses. C'était une manifestation de puissance personnelle, mais dont on était toujours redevable à la divinité. On a retrouvé dans le gymnase de Delphes, peint sur le mur de fond, des acclamations de sportifs qui glorifiaient Apollon. Apollon est grand, parce que si on a remporté la victoire, ce ne peut être que par le concours et avec le concours d'Apollon.
Donc Apollon, le gardien suprême de ce lieu.
Gardien suprême à Delphes. Mais comme partout ailleurs, les dieux ne sont pas trop jaloux de leur sanctuaire et qui acceptent de recevoir des divinités qui occupent une place secondaire.
Et comment se transmettait le rôle de Pythie ? Est-ce que ça se transmettait de famille en famille ?
On a assez peu de renseignements, à dire vrai, sur la Pythie. On sait qu'à l'origine, c'était une jeune fille. Il fallait qu'elle fût vierge. Elle était vêtue de blanc, mais à la suite du zèle un peu trop poussé ou empressé d'un consultant auprès d'une jeune Pythie, on a estimé finalement qu'il valait mieux prendre une femme d'âge mûr pour éviter d'induire les consultants en tentation. Et donc on a choisi une femme d'âge mûr, mais on a continué d'abord à lui imposer la chasteté pour la durée de l'exercice de ses fonctions, et elle a continué à porter le vêtement blanc de signe de virginité. Sur le mode de recrutement lui-même, il ne semble pas qu'il y ait à Delphes, on n'en a aucune attestation en tout cas, qu'il y ait à Delphes des familles sacerdotales qui monopoliseraient l'exercice du système oraculaire. On sait même que, par plus tard, que parfois cette personne qui exerçait le rôle de la Pythie pouvait être de famille extrêmement modeste. On sait que dans un premier temps, la consultation était relativement rare, puis qu'elle est devenue mensuelle avant de devenir quotidienne, sauf les jours néfastes évidemment, et même qu'à un moment de l'histoire du sanctuaire, il y avait deux Pythies, afin qu'il puisse y avoir un relais, voire qu'il y avait trois Pythies, dont une assurait le remplacement en cas de défaillance. Ça, c'est par plus tard qu'on a pu glaner également ces renseignements. Mais pour revenir à votre question première, sur la transmission même des fonctions de Pythie, on n'a aucune indication précise. Ni même sur le mode de désignation d'ailleurs. Pas plus qu'on ne connaît le mode de désignation des prêtres. On sait que les prêtres sont des prêtres nommés à vie, qu'ils forment un collège de deux personnes, mais on ne sait pas au terme de quel processus ou de quelle procédure sont désignés les prêtres.
On pourrait peut-être pour terminer toute cette traversée de Delphes, aller voir la colonne des danseuses donc, qui est au musée.
Tout à fait, on va aller jusqu'au musée pour voir cette colonne qui a fait l'objet d'un soin et d'une étude toute particulière récemment.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 2007. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture et sur l'application Radio France.